Excellences, Monsieur le Supérieur Général, Excellences, chers confrères, chères sœurs, chers amis, le dialogue œcuménique avec les protestants, peut-il en avoir? Peut-il en avoir avec le protestantisme? Peut-il en avoir avec les protestants? Afin de répondre à cette question, nous devons prendre en considération l'histoire de l'origine du protestantisme, jeter un regard sur son auteur principal, Martin Luther, saisir les principes de fond du protestantisme, mettre en évidence son état actuel et finalement mesurer les conséquences du dialogue mené jusqu'à aujourd'hui. Donc, premier point, le luthéranisme et le protestantisme. Nous ne nous occupons pas de la personne de Luther que dans la mesure où elle est déterminante pour le protestantisme. Nous renonçons donc à tout développement biographique. Selon tous ses biographes, selon ses propres écrits et son style, qui cependant doit être jugé d'après la mentalité de son temps, Luther était un caractère colérique, vulgaire, violent, avec des signes pathologiques allant jusqu'à la dépression. Dans son livre « Abschied von Luther, Adieu à Luther », le prêtre Albert Mock explique comment le réformateur, dans sa jeunesse, pour échapper à la justice à cause d'un homicide dans un duel, se réfugia au monastère. Sa nature passionnée, difficile à maîtriser, son idée exagérée de la force du péché, du poids de la culpabilité, le jette dans un état de désespoir qui lui souffle la question « Comment, moi, vais-je trouver un Dieu miséricordieux ?» Au lieu de se poser la question « Comment puis-je plaire à Dieu ? Comment puis-je mener une vie pure devant lui ?» Paul Hacker, dans son œuvre « Das Ich im Glauben » by Martin Luther, « Le moi dans la foi » chez Martin Luther, traite in extenso de cette spiritualité pervertie et égocentrique. Dans son petit catéchisme de l'année 1529, Luther a interprété le credo des apôtres de la façon suivante. « Je crois que Dieu m'a créé comme toutes les créatures, m'a donné un corps, une âme, des yeux, des oreilles et tous les membres, hein, la raison et tous les sens, et me les conserve. De plus, des vêtements et des chaussures, la nourriture et la boisson, maison et ferme, femmes et enfants, champs, bétail et tous les biens. Qu'il me donne chaque jour largement ce dont j'ai besoin, comme nourriture pour le corps et pour la vie, qu'il me protège contre tout danger et me préserve de tout mal. Et tout cela par pure bonté et miséricorde paternelle et divine, sans mérite ni dignité de ma part. Pour tout cela, je lui dois reconnaissance et louange, et je lui dois service et obéissance. C'est vrai de façon certaine. Ensuite, il continue son commentaire, n'est-ce pas, sur le credo des apôtres de toute la même façon. D'ailleurs, ce livre de Paul Hacker est préfacé par le cardinal Ratzinger, in illo tempore. Le moi, donc, il tient un rôle dominant. Abstraction faite du triple « je crois » et de l'engagement professé à la fin, ainsi que l'expression « sans mérite de ma part », on compte dans les textes allemands 11 fois le prénom personnel ou possessif à la première personne du singulier dans les contenus de cette profession. « Je »,« à moi »,« moi »,« le mien »,« les miens ». Et puisque toutes les déclarations proviennent du « moi » et y conduisent, même le « c'est certainement vrai » se réfère au « moi ». Dans la mesure où ce texte parle des créatures ou des rachetés, c'est avec des tournures qui expriment que la valeur des autres est la même que celle du « moi » et de celui qui parle. « Moi, comme toutes les créatures, à moi ainsi qu'à toutes les fidèles, moi et tous les morts. » Chez Luther, tout ce qui contient la foi se réfère en premier lieu et exclusivement au moi du fidèle, tandis que le credo, lui, ne parle que de la relation de Dieu avec le monde comme totalité, que de l'action divine dans la création et dans la rédemption. Logiquement, l'article sur le jugement est omis dans les commentaires de Luther. Nous pouvons et nous devons donc dire que le problème du protestantisme est un problème spirituel chez son auteur principal, que celui-ci projette sur toute l'Église. C'est un drame personnel, n'est-ce pas, qui est jeté dans le cadre de l'Église. Du point de vue de la philosophie et de l'histoire de la science, Luther se présente et comme aboutissement d'un développement du Moyen-Âge finissant, où il y a des différentes hérésies, et comme point de départ d'une nouvelle ère. Son apparition n'est pas un fait du hasard. Il est l'héritier du nominalisme et de son principal représentant, Guillaume Ockham. Pour les nominalistes, il n'y a que des choses individuelles. Il n'y a pas pour lui de lien organique, spirituel, unissant, des notions générales existant vraiment et non comme une fiction de l'esprit. L'Église, ainsi, selon lui, n'est qu'une somme d'individus. Elle se divise en des membres entièrement distincts qui, au fond, ont tous les mêmes droits. Leur somme numérique est l'Église. Le nominaliste est donc, par principe, individualiste. Or, dans un tel système, il n'y a plus de place pour l'autorité en général, ni pour l'autorité ecclésiastique en particulier, et donc pas non plus pour le rôle de médiation du sacerdoce catholique ou du magistère papal. À travers cette école du nominalisme, trois erreurs sont entrées dans la mentalité publique et dans le système de Luther. Premièrement, l'incompatibilité de la vérité naturelle et surnaturelle. Et ceci est un point très important. Alors que notre Seigneur a décrit sa fondation comme une alliance visible entre le ciel et la terre. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jean 1, 51. Avec ce tonné de l'incompatibilité entre le domaine naturel et le domaine surnaturel, peut-il avoir encore une union entre l'État et l'Église? Et n'est-ce pas logique pour Luther, au moins dans sa première phase, il sépare le christianisme de l'Église, qu'il prêche une religion purement spirituelle, liant implicitement l'incarnation. Deuxième erreur du nominalisme, la négation d'une connaissance naturelle de Dieu, et ceci en dépit de l'Écriture sainte, des Pères et de la théologie. Troisième erreur, le rétrécissement continuel du domaine du surnaturel, l'idée même en étant vidée et diluée. En apparence, Luther se tresse contre l'humanisme et la sécularisation de l'Église. En réalité, il est fortement influencé par Erasme de Rotterdam. Or, l'humanisme européen limite le domaine du surnaturel ou le dissout dans la nature même, comme de Lubac, qui, dans sa nouvelle théologie, rabaisse le surnaturel au niveau du naturel. Du gallicanisme, Luther a adopté l'idée d'une église d'État. De Wycliffe et de Jan Hus, le concept d'une église invisible et leurs autres hérésies. Cependant, il prétend que ces deux précurseurs du protestantisme n'ont critiqué et attaqué que les hommes de l'Église, tandis que lui, Luther, s'en prenait au point central du problème, à savoir la doctrine corrompue. Au fond, Luther est la synthèse de toutes les hérésies qui planent dans l'air à la fin du Moyen-Âge et de tous les mouvements contre Rome. Comme le montrent clairement les guerres des paysans et les anabaptistes, la doctrine du moine de Wittenberg a quelque chose de révolutionnaire. Elle est la révolution. Sa notion de la toute-puissance de Dieu et de sa préscience annule totalement pour lui le dogme de la libre volonté de l'homme. Son idée du péché originel et de la justification devient pour lui le point de départ de la dissension avec l'Église et sa doctrine. Selon lui, le péché originel a détruit la nature humaine et a tué ainsi en particulier la liberté morale de l'homme. Par conséquent, il ne peut avoir d'aucune manière... Par conséquent, il ne peut d'aucune manière collaborer avec la grâce dans l'économie du salut, et la grâce, de son côté, ne trouve plus de champ où opérer. La justification pour le réformateur allemand reste une déclaration extérieure de Dieu à laquelle ne correspond pas une réalité intérieure. Dieu revête l'homme du mérite du Christ comme d'un manteau, mais l'homme est pécheur et reste pécheur. Ainsi, le concours de la nature de la grâce est rendu impossible. Cette coopération qui a caractérisé, qui a même forgé tout le Moyen-Âge, est remplacée par la contradiction et la dialectique. Alma von Stockhausen, professeur de philosophie en Allemagne, montre dans son opuscule « Der Geist im Widerspruch, l'esprit dans la contradiction » comment une ligne directe mène de la position de Luther au principe dialectique de Hegel. On n'a pas tort de voir dans la destruction de cette union entre le naturel et le surnaturel, entre la grâce et la nature, la racine du fideïsme de Karl Barth. Et n'oublions pas que le cardinal Ratzinger est fortement influencé par ce théologien protestant. Fideïsme qui éclate particulièrement dans son commentaire, le commentaire de Karl Barth, sur l'épître aux Romains. Il dit ceci, « Le fini ne peut contenir l'infini. Finitum non capax infiniti. » De même, l'existentialisme moderne est lié étroitement à Karl Barth et à travers lui à Luther. Je cite quelques paroles, n'est-ce pas, de commentaires de Karl Barth au sujet de l'épître aux Romains. « Et donc une foi, dit-il, qui voudrait être plus que le vide, serait l'infidélité. La foi n'est jamais terminée, donnée, jamais assurée. Elle est toujours et toujours de nouveau un saut dans l'incertain, dans le noir, dans le vide. » Vous voyez, toutes ces expressions existentialistes, n'est-ce pas? Le niveau de Dieu perce en Jésus le monde de la chair et laisse des points d'impact et de vide. Le Christ surmonte la distance entre l'homme et Dieu en l'ouvrant. Il y a des choses, n'est-ce pas, très contradictoires, si vous voulez, mais tout à fait dans la pensée existentialiste. La dialectique insurmontable Dieu-homme va mener Barth vers un jugement négatif de l'Église qui y correspond. Citation. À l'opposé de l'Évangile, Il y a l'Église comme incarnation de la dernière possibilité humaine, de ce côté-ci, de l'impossible possibilité de Dieu. En conséquence, il ne peut y avoir de sacrement. Il constate, le sacrement n'est plus communion avec Dieu, mais il la signifie simplement. Le caractère autour duquel sont assis les saints, c'est consumé. Les cratères autour duquels sont assis les saints, c'est consumé. De même, l'exégèse moderne, avec sa démythification, peut reconnaître Luther pour son père à cause de cette destruction de l'union entre la nature et la grâce. Pour Rudolf Bultmann, des signes extérieurs et des miracles seraient la mort de la foi. Contraire à ce que dit le Concile Vatican I, qui dit que les signes sont les preuves, n'est-ce pas, les plus claires, n'est-ce pas, de notre foi et de la vérité de la religion. Donc, Bultmann oppose le Christ, le Jésus de l'histoire, au Christ de la foi et refuse au premier toute signification pour notre existence de chrétien. Il réduit la triple réalité, ciel, terre, enfer, à une économie du salut, à une seule dimension. Au fond, il nie tout le monde surnaturel. Sa fausse idée du péché originel et de la justification va diriger Luther logiquement vers ces fameux trois soli. Sola fide, par la foi seule, et celle-ci comprise dans le sens d'un recours confiant de l'homme au Christ et à Dieu. Cette foi seule, ainsi comprise, obtient le salut. Les œuvres n'ont aucune valeur dans l'économie du salut. Sola scriptura, la Bible seule, pas du magistère vivant qui serait porteur de la deuxième source de la révélation, à savoir la tradition orale ou des vérités contenues implicitement dans la Sainte Écriture. Sola gratia, la grâce seule, sans aucun concours humain, justifie l'homme. En résumé, on peut en déduire solus Deus, Dieu donne le salut directement, sans aucune médiation de l'Église, avec son magistère, son sacerdoce et son sacrifice, sans l'intercession des saints. Nous voici déjà arrivés au point central de la problématique du protestantisme. Selon lui, tout homme est inspiré directement du Saint-Esprit, il est son propre magistère, son pape. Contre l'idée d'un magistère extérieur fondé par Dieu, Luther compose son opuscule « Wider das Papsttum in Rom vom Teufel gestiftet » contre la papauté à Rome fondée par le diable, écrit en 1545. Il estime que chaque chrétien est son propre prêtre, d'où sa haine du sacerdoce catholique, de la messe en tant que sacrifice d'expiation, des prières de l'offertoire et du canon romain. Cette expression reflète fidèlement sa position. Prévitaire, dit-il, Christiani sunt, qui Romani non sunt. Sont chrétiens ceux qui ne sont pas des Romains. C'est ça, toute la résumée de Luther. Donc, alors, son aversion acharnée, n'est-ce pas, contre tout ce qui est romain, n'est-ce pas, le canon romain, n'est-ce pas, l'offertoire, le sacerdoce, la papauté, tout cela. Or, il faut dire que Luther n'est pas un idéologue. Il n'a pas pensé et composé un système de doctrine cohérente a priori. Sa manière d'agir est plutôt l'attaque au coup par coup contre l'Église, sa doctrine et son autorité selon les circonstances. C'est seulement à la Wartburg qu'il trouve le silence et le temps de donner à ses évidences une forme un peu ordonnée, de bâtir un certain système. C'est ainsi que le luthéranisme primitif voit le jour. Dans la suite, c'est surtout Melanchthon qui lui donne une forme plus durable, lui rendant, peut-être plus que Luther ne l'aurait voulu, un certain nombre d'éléments extérieurs, comme par exemple le signe sacramentel ou une certaine hiérarchie. Certaine. Alors, on voit déjà, n'est-ce pas, en tout cela, que Luther est vraiment l'auteur du protestantisme, comme nous l'avons vu dans l'exposé de M. l'abbé Cellini, n'est-ce pas, avec ses caractéristiques du subjectivisme et rationalisme. Les autres réformateurs, Calvin à Genève, Zwingli à Zurich, Colampadius à Bâle, construirent leur doctrine substantiellement sur les mêmes principes, même si dans les contenus on trouve des grandes différences, par exemple au sujet de l'Eucharistie. Luther enseigne l'impanation, donc une sorte de présence réelle, avec négation de la transsubstantiation, tandis que Calvin et Zwingli n'y voient qu'un signe et un symbole. Ainsi, on peut distinguer dès le début trois dénominations principales, le luthéranisme, le calvinisme et les zwingliens. Les deux derniers se présentent finalement ensemble sous le nom de réformés. À partir de Kremner, qui introduit dans l'Église schismatique d'Angleterre, schismatique depuis Henri VIII, le Common Prayer Book, avec ses principes liturgiques protestants, il faut également classer l'anglicanisme parmi les différentes dénominations protestantes. Le siècle des Lumières, donc le XVIIIe siècle, a vidé toutes ces communautés du contenu des formes qu'elles avaient préservées jusqu'alors. De nouveaux schismes s'ajoutèrent, les églises libres, les baptistes, les méthodistes, les quakers, etc. Face à ces éparpillements et à ces divisions, le mouvement œcuménique, naquit au siècle dernier en Angleterre au sein de l'anglicanisme et dans les milieux protestants non anglicans. Bon, il aboutit en 1948 à Amsterdam à la fondation du Conseil œcuménique des Églises. Nous avons juste entendu suffisamment, n'est-ce pas, de ce Conseil œcuménique. Le fait que des Églises appartenant à ce Conseil ne sont pas reconnues comme telles par certains autres membres montre assez bien comment la situation est confuse. Les conceptions les plus diverses règnent au sujet de l'unité à promouvoir. Nous avons même vu, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas un concept, même pas une idée, n'est-ce pas, sur les buts. Les membres du conseil ne s'accordent ni sur le but à atteindre, ni sur le moyen à prendre. En d'autres termes, on a remplacé l'unité comme note de l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, remplacé cette note d'unité, cette unité, dans la doctrine, dans le culte et dans la direction, par une unité plutôt politique, extérieure. Comment pourrait-il en être autrement? Car le protestantisme, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente historiquement, est essentiellement subjectiviste, opposé à l'objectivité catholique. C'est ça, n'est-ce pas, le formel, je dirais, n'est-ce pas, du protestantisme. Il représente le libre arbitre contre la loi de la foi, et il est un mouvement anti-romain, tendant à l'autonomie de l'homme. De par sa nature même, il porte en son sein le bacille de la division. En 1965, par exemple, le Conseil œcuménique des Églises comptait 240 membres Églises, y compris les orthodoxes. Entre-temps, ça fait encore beaucoup plus, n'est-ce pas? Nous avons vu que ça fait plus de 300 maintenant. Alors, juste un petit regard sur le protestantisme actuel. Dans une conférence sur les gloires de Marie à cause de son fils, qui date de 1850 environ, le cardinal Newman, lui-même converti de l'anglicanisme et donc parfait connaisseur du protestantisme, décrit la foi des protestants en la divinité du Christ en son incarnation. La façon suivante. De vrais protestants n'ont que très rarement connaissance de la doctrine qui dit que le Christ est Dieu et homme en une seule personne. Connaissance qui correspond à la réalité. Ils parlent de la divinité du Christ en des termes obscurs et voilés. Quand on cherche quelle est leur position, on découvre qu'ils n'aiment pas faire de déclarations qui explicitent le dogme catholique. Ils déclareront sans hésiter que cette question ne devrait pas être approfondie, car il serait de toute façon impossible d'éviter le technique et le subtil. S'ils se prononcent sur l'Évangile, ils parlent du Christ non point simplement et logiquement comme de Dieu, mais comme d'un être qui serait moitié Dieu, moitié homme, ou entre les deux, ou d'un homme spécialement habité par la divinité. Quelquefois, ils vont encore plus loin et nient sa filiation divine au ciel et disent qu'il est devenu le Fils au moment où il a été conçu par l'opumbratio du Saint-Esprit. Que dirait aujourd'hui le cardinal Newman au sujet de ce même dogme, ou de celui de la très sainte Trinité, ou de ceux de la rédemption, du ciel, de l'enfer ou d'autres points de notre foi qui sont supposés communs aux catholiques et aux protestants? Comment, n'est-ce pas, c'est bien à comprendre, n'est-ce pas, donc matériellement chez les protestants, matériellement et formellement chez les catholiques. L'état de la foi chrétienne chez nos frères séparés se mesure déjà statistiquement par le nombre de ceux qui fréquentent encore les offices, particulièrement en Allemagne. Le taux doit à peine dépasser 1%. Les églises, les temples protestants sont absolument vides. Absolument vite. Les protestants d'aujourd'hui sont divisés, éparpillés, presque pulvérisés en des centaines, sinon des milliers de groupes. Et ce mouvement d'éclatement se poursuit presque quotidiennement. Dans un article de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, journal le plus renommé en Allemagne, du 9 août 1900, 97, ce phénomène est décrit de la façon suivante. Citation. Pour tout observateur extérieur, l'éparpillement du protestantisme est devenu incompréhensible depuis longtemps. Dans la seule ville de Berlin, un protestant a le choix entre 9 représentations de sa confession. Évangélique, luthérienne, autonome luthérienne, unifiée, allemande réformée, française réformée, hussite, évangélique libre ou baptiste. Toutes ces églises se font cependant, pas partie de l'église évangélique en Allemagne, Evangelische Kirche in Deutschland. Le principe d'église nationale est un des signes distinctifs du protestantisme. En plus de cette division régionale, l'église évangélique en Allemagne est marquée par des orientations confessionnelles différentes qu'on trouve parmi les 24 églises locales. Les orientations luthériennes, réformées, unifiées dans la confession et unifiées dans l'administration. Il y a aujourd'hui des régions où le mariage entre un luthérien et une réformée serait considéré comme inconvenable. Ces églises nationales, donc par des pays, sont unies en partie pour former des associations fêtrières, la Vereinigte Evangelische Lutherische Kirche Deutschlands, Église évangélique luthérienne unifiée d'Allemagne, ou la Evangelische Kirche der Union, Église évangélique de l'Union. Et ces églises particulières, représentations confessionnelles différentes du même protestantisme, sont en partie en concurrence. Ceci est l'article, n'est-ce pas, de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ces églises nationales, Landeskirchen, perdent chaque jour en nombre et en influence auprès de leurs propres adeptes. On ne peut plus guère leur attribuer des vigueurs, même à l'intérieur de leurs propres cercles. Par contre, la propagande agressive de leurs fonctionnaires contre les possessions et les institutions catholiques trouve une oreille toujours plus attentive auprès des catholiques assoiffés de réforme, auprès des catholiques progressistes. Le protestantisme est toujours anticatholique et il le sera toujours. C'est son essence. Aux États-Unis, diverses communautés protestantes exercent une certaine attraction. Les méthodistes, les baptistes, les quakers, les mormons, témoins de Jéhovah, etc. Comme d'ailleurs chez nous, la communauté des thésées auprès d'une jeunesse contaminée par l'indifférentisme et l'irénisme. À partir de l'Amérique du Nord, ils ont lancé une véritable campagne contre l'Amérique du Sud, catholique, où leurs temples surgissent du sol comme des champignons, comme d'ailleurs aussi en Afrique. Depuis 1968, plus de 50 millions de catholiques d'Amérique latine ont tourné le dos à leur église pour adhérer à ces communautés, à ces sectes. Troisième point, les difficultés dans le dialogue œcuménique avec les protestants. La première question qui se pose est de savoir avec qui le mener. Qui est l'autorité compétente au protestantisme dans la question de foi? La question est déjà cruciale pour les orthodoxes, puisque ils ne sont pas représentés par un chef commun. Le patriarche copte Chénouda III, par exemple, ne reconnaît que les trois premiers conciles. Les autres orthodoxes, en général, acceptent les sept premiers. Le problème est encore bien plus dramatique chez les protestants, et non seulement parce qu'il leur manque la hiérarchie d'ordre, ni parce qu'ils sont divisés en centaines de dénominations, mais surtout parce qu'une déclaration d'autorité ecclésiastique, par exemple d'un consistoire, d'église, n'engage pas ses membres. Selon le principe du libre-arbitre, l'historien ecclésiastique catholique Walter Brandmüller montre bien les obstacles rencontrés lors d'essais intérieurs. Il dit ceci. La difficulté augmentait du fait que Luther lui-même changeait constamment sa doctrine, que Karlstadt, Ecolampadius et Zwingli étaient en contradiction avec lui et se combattaient entre eux. Qui était alors le partenaire pour un dialogue avec l'Église catholique et ses théologiens? C'est un problème qui, de nos jours, n'a pas encore trouvé de solution et qui ne trouvera jamais. Il faudrait, si on veut engager un dialogue, il faudrait le mener avec chaque protestant individuellement. Et donc, si on veut vraiment leur conversion, il faut, disons, il ne peut qu'avoir des conversions individuelles. La question suivante est, quelle pourrait être la base d'un dialogue? Une autre question. Après que le rationalisme, l'exégèse moderne et la démythification de Bultmann aient véritablement saccagé le contenu de la foi et l'autorité de la Sainte Écriture chez les protestants, et par la suite, hélas, aussi dans l'Église catholique, parce que toute cette exégèse moderne est pénétrée chez nous. On peut se demander comment discuter des articles de foi. Ceux-ci, en effet, pour les catholiques, sont garantis par l'Écriture sainte, mais pour les protestants, ils ne sont souvent que les interprétations de l'Église primitive. Il manque à ces derniers l'objectum formal, la raison de croire à la révélation dans son entier, à savoir l'autorité de Dieu se révélant, selon le Concile Vatican I. Une autre difficulté encore plus grave s'ajoute à cela. Quelle valeur faudrait-il attribuer à la raison humaine, que Luther qualifie de prostituée? Il est certain que le rationalisme a travaillé dans un tout autre sens, et le protestantisme d'aujourd'hui est très loin de la conception de ses fondateurs. Et pourtant, le fidéisme de Karl Barth rend évident combien difficile est le dialogue théologique sans une liaison harmonieuse entre la nature et la grâce. Là où Dieu est toujours le tout autre, c'est là une expression chère à Karl Barth, Dieu est toujours le tout autre. L'agnosticisme n'est pas très loin. Ne faudrait-il pas commencer, s'il y a dialogue, ce dialogue avec un cursus sur la philosophia perennis, avec ontologie, métaphysique et théodicée, avant tout effort proprement théologique? Est-ce que les protestants acceptent les preambula fidei? La pensée catholique objective et la philosophie subjectiviste de la vie protestante sont analogues à deux parallèles qui ne se rencontrent jamais. Le protestantisme représente la soi-disant liberté du chrétien. Il voit le salut dans la liberté, dans l'autonomie de l'homme. Le catholicisme se voit à tout égard dépendant de Dieu et de son Église et reçoit le salut dans cette dépendance. Pour les protestants, c'est moins la vérité objective qui compte, mais plutôt la sincérité subjective. Moins l'orthodoxie et bien plus l'orthopraxie. Finalement, il ne faut pas oublier que le protestantisme n'est pas né d'un jugement de valeur positive. Son origine est dans la contradiction de l'Église. Et dirigé contre l'Église, c'est ça sa naissance. Cet esprit de contradiction, de rébellion, cet esprit anticatholique, n'a jamais été abandonné au cours de son histoire, même si bien des changements se sont produits. S'ils en étaient défaits, il ne serait plus le protestantisme. Si différentes que soient entre elles les nombreuses dénominations protestantes, elles ont toutes reçu au perso le rejet véhément de l'Église romaine et de la papauté, de la philosophie et de la théologie scolastique. Entre la fondation de Jésus-Christ, Dieu fait homme, et l'hérésie, l'apostasie et la négation, il ne peut y avoir ni compromis ni coexistence, comme entre la vérité et l'erreur, la lumière et les ténèbres. Quatrième point. Les dangers et les dommages du dialogue interconfessionnel pour la cause catholique. Le dialogue œcuménique avec les protestants, comme il est mené jusqu'à aujourd'hui, avec des avances sans nombre du côté catholique et sans la moindre concession de l'adversaire, a ouvert toutes les portes à l'esprit du relativisme et de la dialectique. On essaye de concilier les choses inconciliables, de rendre concevable la contradiction même. Ce n'est pas la vérité qui tient la première place, ce n'est pas la recherche de la vérité qui est le point de départ, mais une unité extérieure qu'on espère atteindre par l'action et la prière en commun. L'œcuménisme, comme on le pratique aujourd'hui, est une offensive générale contre les caractères absolus de la vérité et par suite de celui qui a dit de lui-même « Ego sum veritas »« Je suis la vérité ». Le coup de maître de l'ambiguïté et du mensonge historique est sans nul doute l'accord concernant la justification. Monseigneur Tissier de Malraux l'a déjà mentionné ce matin. Ce document stipule que les condamnations doctrinales catholiques du XVIe siècle ne touchent plus la doctrine de la justification des protestants actuels, comme de leur côté, les sentences des protestants ne frappent plus les positions catholiques. Un professeur de théologie protestante à Zurich, Ingolf Dahlfert, dit ceci. Pour lui, la position protestante immuable et toujours en vigueur, à savoir que l'homme impie est justifié par la foi seule, et cette foi est due à la parole libre de Dieu, et non pas à un ordre de la grâce sacramentelle octroyé par la médiation du sacré. Donc lui, il dit, n'est-ce pas, cet accord est absolument à rejeter. C'est inconcevable pour un protestant d'accepter cet accord. La notion de la foi en tant qu'acceptation de la révélation de Dieu a subi une transformation profonde à cause de l'influence protestante, la foi catholique. On en rejette comme intellectualiste la définition valable jusqu'à maintenant. Elle est remplacée par une foi sentimentale, affaire du cœur et d'expérience. Le rapprochement avec l'immanence vitale et le modernisme est patent. La description de la foi par Joseph Ratzinger, dans son livre « Introduction au christianisme », montre à quel point cette pensée existentialiste a pénétré l'Église et a nuit à la foi. Je cite du livre de Cardinal Ratzinger. « Le fidèle et l'infidèle ont, chacun à sa manière, part au doute et à la foi. » S'ils ne se dissimulent pas à eux-mêmes et à la vérité de leur être. Personne ne peut totalement échapper au doute ni à la foi. Pour l'un, la foi existe contre le doute. Pour l'autre, par le doute et sous la forme du doute. C'est le fondement de la destinée humaine de ne pouvoir trouver que dans cette perpétuelle rivalité du côté du doute et de la foi, de la tentation et de la certitude, les caractères définitifs de son existence. Peut-être ce doute qui préserve l'un et l'autre de se refermer sur soi-même pourrait-il devenir justement le lieu de communication. Il les empêche tous deux de se complaire en eux-mêmes. Il ouvre le croyant au sceptique, ou celui qui doute, et les sceptiques aux croyants. Pour le premier, il est sa participation au sort de l'incroyant. Pour le second, la forme que prend malgré tout la foi pour rester à ses yeux un défi. Voilà l'explication existentialiste de la foi par le cardinal Ratzinger. Or, si la foi n'est plus certitude suprême, alors tout l'édifice de l'Église et de la vie chrétienne s'écroule. Ensuite, l'affirmation présentée par le Concile d'une hiérarchie des vérités est en contradiction avec la définition de la foi du premier Concile du Vatican. Tout le contenu de la révélation doit être accepté par les fidèles avec la même certitude à cause de l'autorité de Dieu se révélant. Parmi les différentes vérités de la révélation, il y a un ordre en ce sens que l'une dérive de l'autre. Mais prise individuellement, il faut le tenir avec la même certitude. On ne peut donc d'aucune manière passer sous silence celle qui déplaise aux protestants, comme par exemple le dogme Mario ou celui du primat de Pierre. L'œcuménisme répand auprès des catholiques et des non-catholiques l'erreur selon laquelle l'Église n'a pas encore d'unité. On parle même d'Église divisée. C'est-à-dire que tout à la rigueur, je dirais, on pourrait tout à la rigueur encore parler, n'est-ce pas, des chrétiens désunis ou quelque chose comme ça, mais pas de l'Église divisée. Ce que nous avons entendu bien de la bouche de Mgr Tissier de Malavet ce matin. Et en désignant les catholiques et les protestants, des églises, on parle des églises, une telle conception ne peut obscurcir l'essence de l'Église, une sainte catholique et apostolique. À cause du dialogue œcuménique, le rejet de la papauté et du pouvoir central de l'Église par les protestants ne peut pas rester sans conséquence pour les catholiques. Même le pape régnant et le cardinal Ratzinger semblent avoir adopté ou être prêts à adopter des thèses protestantes. Dans l'encyclique Ut Unum Sint, le pape désire une nouvelle forme d'exercice du primat au service de charité, reconnue par les uns et les autres, présentée par tous les évêques et théologiens de nos églises. De nos églises. Le cardinal Ratzinger avait déjà proposé, il y a des années, à l'occasion de sa visite à l'université de Vaudois, de ramener le primat du pape à la forme qu'il avait durant le premier millénaire. Donc une négation, n'est-ce pas, du Concile Vatican I et une négation du travail du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui guide l'Église à travers les siècles. L'activité œcuménique d'aujourd'hui ébranle l'estime du catholique moyen pour son Église, pour sa foi, sa hiérarchie, son sacerdoce, son culte, pour la mariologie et les cultes des saints, ainsi que pour ses exigences morales. On ne peut pas donner pendant des décennies l'impression que la confession protestante, ou plutôt les confessions protestantes, puisqu'il y a autant qu'il y a protestants, ne forment avec l'Église catholique qu'une expression différente d'un même christianisme, sans induire les catholiques à adopter des interprétations protestantes. Le pape Pie XI dénonce avec clairvoyance ce danger dans son encyclique Mortalium Animos, en montrant que ses efforts œcuméniques mènent à l'indifférence religieuse et finalement à l'athéisme et à l'apostasie. Ce sont des termes très forts qu'utilise le pape. De ce point de vue, le plus grand danger est celui qui menace le sacerdoce avec le célibat sacerdotal et le saint sacrifice de la messe. Puisqu'on s'efforce toujours de se rejoindre sur le plus petit commun dénominateur, on procède selon le principe de la hiérarchie des vérités et on abaisse le sacerdoce à un service de la communauté, le sacrifice de la messe à une commémoration. Ce n'est pas l'Église qui offre Jésus crucifié au Père Céleste, un sacrifice d'expiation pour le monde, c'est plutôt le Père Céleste qui nous donne son Fils dans le repas eucharistique. Un renversement, n'est-ce pas, du mouvement. Renversement du mouvement. C'est plus, n'est-ce pas, l'Église où Jésus-Christ, à travers de son Église, n'est-ce pas, qui offre Jésus-Christ, qui s'offre lui-même à son Père, mais c'est le Père qui donne son Fils. C'est ça l'Eucharistie pour les protestants. Et malheureusement, le cardinal Ratzinger, dans des différents écrits, n'est-ce pas, est imbu de ses idées. Monseigneur Bonini lui-même disait qu'on avait voulu écarter de la nouvelle liturgie même l'ombre d'une pierre d'achoppement pour nos frères séparés. Jusqu'à quel point va aujourd'hui l'assimilation du protestantisme, la rédaction primitive de l'article 7 de l'instruction générale du nouveau ordre missé, le montre bien. Vous connaissez cette définition. La scène du Seigneur ou la messe est la synaxe sacrée ou le rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église, la promesse du Seigneur, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si par la suite, à cause de nombreuses protestations, on en a légèrement amélioré la définition, complètement protestante, absolument protestante, l'objet défini restait le même, à savoir une liturgie qui s'éloigne de façon impressionnante dans l'ensemble comme dans le détail de la théologie catholique de la Sainte Messe, comme l'a défini le Concile de Trente dans sa 22e session, pour parler avec les cardinaux Ottaviani et Pacci. L'attitude des protestants en ce qui concerne la théologie catholique du Saint-Sacrifice est clairement démontrée par Bultmann. L'idée d'un sacrifice expiatoire exposé dans le Nouveau Sacrement, selon laquelle le Christ a expié par l'effusion de son sang les péchés des hommes dont il prenait la place, il la considère comme une mythologie primaire à laquelle l'homme d'aujourd'hui ne peut pas atterrir. Ensuite, le dialogue œcuménique a des effets très néfastes quant à la piété eucharistique. L'adoration du Saint-Sacrement, les saluts et les processions du Saint-Sacrement ont pratiquement cessé. Ce qui s'est produit à Munich il y a quelques années révèle au grand jour cet état de choses. Le Kirchentag protestant, réunion d'un grand nombre de protestants, d'associations protestantes, eut lieu dans la capitale bavaroise juste au moment de la fête de Dieu. Quand on voulait faire la procession avec les, comme on voulait faire la procession avec les protestants, mais qu'on ne voulait pas leur imposer la vue de l'hostie, on laissait simplement le Saint-Sacrement à l'église et on fit la procession sans lui. Écuménisme donc aux dépens du Dieu eucharistique et de la vérité catholique. Dans le même registre, il y a eu une procession de la fête de Dieu, quelque part en Suisse, dans une paroisse catholique, avec la Bible à la place du Saint-Sacrement. L'écuménisme d'aujourd'hui a aussi des effets désastreux en ce qui concerne l'identité du prêtre catholique. Comme le protestantisme ne connaît pas l'assimilation ontologique de ses ministres avec l'éternel et souverain prêtre par les sacrements de l'ordre, il ignore aussi le caractère sacerdotal grâce auquel le prêtre est établi essentiellement pour offrir le sacrifice eucharistique, dispenser les mystères du salut, remettre les péchés, consacrer et bénir. C'est à juste titre que Georg May, théologien catholique, constate, citation, « Ce n'est pas trop dire que l'œcuménisme a brisé la colonne vertébrale du prêtre catholique. » Par cet obscurcissement de la mission du prêtre catholique, par son abaissement au niveau d'un fonctionnaire des communes ou des communautés, selon le modèle protestant, une église laïque est en train de s'établir et de mettre de plus en plus ses experts communaux, ses experts pastoraux et ses conseils paroissiaux sur le même plan que le prêtre ordonné. Le curé, en tant que pasteur d'âme, ayant charge d'âme, est dépouillé de son ministère. Il est chef d'équipe ou simple membre d'une équipe laïque. C'est ainsi qu'on détruit la structure hiérarchique de l'Église et c'est, entre autres, une des raisons du manque de vocation. Le pasteur protestant est purement et simplement le représentant de la communauté. Il n'offre pas au Père Céleste l'hostia immaculata. Il n'est pas fiancé mystiquement avec l'Église. Par conséquent, cette conception n'entraîne pas l'obligation du célibat. Et puisqu'aujourd'hui, on distingue de moins en moins l'Église catholique de l'hérésie protestante, le prêtre catholique du ministre protestant, on ne doit pas trop s'étonner de la revendication d'abolir la règle du célibat. Or, dans la préparation aussi des candidats au sacerdoce, on est maintenant en train d'introduire dans toutes les facultés théologiques, dans les séminaires, obligatoirement un directoire œcuménique qui fait partie, n'est-ce pas, de la formation et qui est déjà prévu par le Concile dans le décret sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegratio, où on dit, n'est-ce pas, que toutes les études devraient être faites
sous l'angle de l'œcuménisme. Cela va maintenant devenir réalité avec un nouveau directoire pour les séminaires, où l'étude de l'œcuménisme est obligatoire, rendue obligatoire. Le sacrement de la pénitence est aussi mis en doute par l'esprit œcuménique. Si le protestant obtient le pardon de ses péchés par recours à Dieu directement, pourquoi le catholique doit-il encore aller à la confession si pénible pour tout le monde? Elle devient ainsi un sacrement perdu, pour parler avec le professeur Maillet. Depuis, des femmes ont été nommées pasteurs, prêtresses, entre guillemets, et même évêques dans plusieurs dénominations protestantes. Des catholiques progressistes y voient pour leur Église un retard à rattraper de toute urgence. Les Kirchenvolksbegehren, réclamations de la base de l'Église, en Autriche, en Allemagne et en d'autres pays, montrent bien à quel point l'esprit protestant, par le véhicule de l'œcuménisme, a touché les esprits et les cœurs. Des millions de catholiques exigent l'abolition du célibat obligatoire, exigent le sacerdoce des femmes, l'admission des divorcés remariés à l'Eucharistie, l'approbation de la contraception artificielle, la démocratisation de l'Église. Ces milieux travaillent dans le sens du mouvement Los von Rom, c'est dégagé de Rome, pour l'établissement d'églises nationales. Il y a peu, l'ancien évêque d'Innsbruck, Mgr Stecher, dans une lettre spectaculaire, a fait sien une grande partie de ce programme. Plus de 730 prêtres autrichiens ont ensuite signé une déclaration de solidarité avec lui. Et, selon un sondage de la Presse, le quotidien le plus lu en Autriche, 97% de la population du Tyrol, pays autrefois très catholique, se prononce en faveur du sacerdoce des femmes. 97% de la population. Déjà en 1975, le théologie allemande May publiait un long article sous le titre suivant « L'œcuménisme comme levier de la protestantisation de l'Église catholique ». L'influence protestante atteint même les trois canons. Dans le cas de mariage mixte, le canon 1125 du Code de 1983 n'exige plus de la partie non catholique la promesse du baptême et de l'éducation catholique des enfants. Le canon 844 va si loin qu'il accorde aux protestants l'administration des sacrements de la pénitence, de l'extrême-onction et de l'Eucharistie sous certaines conditions. Ils ont peu d'intérêt pour les deux premiers, pour la pénitence, n'est-ce pas, et l'extrême-onction, mais beaucoup pour la réception de la Sainte Communion. Comme ils n'ont pas la foi catholique, on peut à bon droit présumer qu'ils ne sont pas en état de grâce. Ce canon sanctionne donc le sacrilège. Après le Concile Vatican II, par l'application du décret sur la liberté religieuse, dignitatis humanae, cet esprit d'assimilation et de compromis a obtenu la suppression des États catholiques. Et cet esprit œcuménique a encore eu des conséquences dans d'autres domaines. Par exemple, pour l'école confessionnelle en Allemagne, elle était abolie au nom de l'œcuménisme. Même l'attitude, n'est-ce pas, des catholiques à l'Église, ils ne veulent plus s'agenouiller. Bien, ça, c'est d'après les modèles protestants. Les chants sont imprégnés, n'est-ce pas, des chants protestants. Et plus cet œcuménisme a changé la conception de l'homme catholique. On ne trouve en effet plus de nos jours des catholiques conscients de leur dignité qui s'engagent pour l'édification d'une société chrétienne, d'une église basée sur la prière et le sacrifice. On est passé à une église anti-autoritaire, aux discussions interminables, à une église de la parole, où on bavarde tout le temps, à qui le mot pénitence est étranger. Dans le domaine de la morale, l'esprit protestant s'est aussi infiltré dans la vie de l'Église. On se réfère constamment à sa propre conscience pour ce qui est des exigences de la loi morale objective. Au sujet des moyens anti contraceptionnelle, les évêques allemands et autrichiens eux-mêmes mettent la conscience personnelle des époux au-dessus de la norme exposée par le magistère dans Humanae Vitae. La vérité est une manière globale, d'une manière générale, subordonnée à la liberté. Le mariage n'étant plus compris dans sa dignité sacramentelle, Luther disait « le mariage est une chose purement temporelle », la contraception artificielle n'a jamais trouvé la moindre opposition dans le protestantisme. De plus en plus souvent, les ministres protestants célèbrent des mariages des partenaires du même sexe. Mais alors, pourquoi ce qui est permis aux protestants serait-il interdit aux catholiques? La première femme évêque protestante en Allemagne, la douce féministe, comme elle est appelée, douce féministe, Maria Jespen, dans un interview du Rheinische Merkur du 16 janvier 1998, donc juste il y a quelques mois, déclarait au sujet des liaisons entre partenaires du même sexe. Citation. Il y a des homosexuels qui ne veulent pas avoir des liaisons fluctuantes, mais qui désirent s'engager auprès de leurs partenaires en toute fidélité et responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Et quand des êtres humains disent « Nous ne pourrons pas toujours y arriver par nos propres forces, nous avons bien besoin de l'approbation, de la bénédiction des dieux. Alors c'est, à mon avis, dit-elle, notre tâche en tant qu'Église de demander à Dieu sa bénédiction pour ces deux êtres dans cette situation particulière. Je sais que des homosexuels veulent aussi, elle continue, en plus de la bénédiction, la reconnaissance de leur partenariat par l'Église. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Je souhaite pourtant aussi le deuxième pas, à savoir que la bénédiction ne concerne pas l'individu seul, mais aussi le partenariat entre personnes du même sexe. Or, nous sommes navrés de constater que le cardinal Ratzinger a récemment concélébré des vêpres œcuméniques avec cette femme à Hambourg. Autre conséquence, finalement, qu'aurait encore d'attirant pour les hommes une église protestantisée à ce point. Non seulement les conversions tarissent, mais un grand nombre de catholiques prennent aussi le chemin des sectes, comme nous l'avons évoqué au sujet de l'Amérique latine. J'arrive à la conclusion. N'y a-t-il alors aucune possibilité de dialogue avec les protestantismes et les protestants? On peut se demander. Avec ce dernier, certainement pas, puisqu'il est par définition anticatholique. Le dialogue n'est guère possible non plus avec ses représentants. Il pourrait à la rigueur avoir lieu dans des petits cercles de théologie, de théologiens, dont le travail devrait être accompagné de la prière fervente des fidèles, car la foi est en premier lieu une grâce. De toute façon, de telles rencontres ne sont pas sans danger pour la pensée catholique, comme le prouve le dialogue mené jusqu'ici. Seule une église missionnaire et apostolique, zélée, pourrait échapper à ce danger. Mais l'église d'aujourd'hui est-elle ainsi? Bien au contraire, l'œcuménisme pratiqué maintenant a affecté gravement, si ce n'est même pas détruit, la conception de la vérité, de la foi, de l'église, de l'identité du prêtre catholique, de la réalité du de la Sainte Messe comme sacrifice, la confession comme lieu de la rémission des péchés et le véritable idéal de l'homme catholique. Il se révèle ainsi être une injustice à l'égard de l'Église et de ses fidèles et un manque de charité vis-à-vis des protestants eux-mêmes qui sont maintenus dans l'illusion et l'erreur à cause de ce œcuménisme. Un médecin qui tromperait son patient au sujet de son état de santé et des moyens de guérison se rendrait gravement coupable devant Dieu. Je cite encore Georg May avec son article de 1975. L'affirmation comme quoi
il y aurait eu une vraie réforme dans l'Église ces dernières années est une gigantesque tromperie. Le mouvement progressiste n'est, en grande partie, pas autre chose que l'acceptation d'idées et d'institutions protestantes. Il est la protestantisation de l'Église catholique par elle-même. Ce qui se passe donc aujourd'hui dans l'Église n'est pas un renouveau, mais une immense destruction. Il devrait être clair à tout observateur objectif que, si le développement continue ainsi, à vue humaine, la fin de l'Église catholique est arrivée. Puis celle que le protestantisme a tant outrachée, celle qui, cependant, selon l'office divin, est victorieuse de toutes les hérésies dans le monde entier, la très sainte Vierge Marie, vaincre aussi l'erreur protestante à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église et dans sa bonté ramène les égarés à l'unique bercail du Christ. Je vous remercie.